Donc nous reprenons nos entretiens avec Jean-Luc Ménard autour de la crise financière. Alors on va rentrer justement dans une phase qui est non plus croissance zéro, mais carrément une phase récessive, dont on prendra la mesure dans l'année qui vient. Justement, on pourrait évoquer ce rapport souvent très très curieux, parce qu'on assiste, on a une sorte de croissance, mais curieusement une croissance qui est dopée à l'endettement.
Oui, absolument, hein,
Donc
puisque depuis plusieurs années, le marché mondial des dettes et le total du PIB mondial sont très voisins. Par exemple, là, à fin 2007, le PIB mondial, c'est-à-dire la somme des richesses créées par les 191 pays, s'élevait à 62 000 milliards d'euros. Et dans le même temps, le marché mondial des dettes s'élevait à 60 500 milliards d'euros. Donc en fait, on retire de la croissance l'endettement, et en fait, il n'y a plus de croissance. Hein, c'est uniquement à coût d'endettement des gens, des entreprises et des États que la croissance se fait. Donc, en d'autres termes, hein, utiliser les ressources financières de demain aujourd'hui, tout comme on utilise les ressources naturelles de demain aujourd'hui.
Oui.
Hein, c'est exactement la même chose.
Alors, il faudrait quand même différencier entre ce qui est de l'ordre du prêt légitime et ce qui est de l'ordre ensuite de l'endettement. Parce que, oui.
Oui, ceci étant, est-ce qu'il y a de l'endettement légitime? Qu'entendez-vous par endettement légitime?
Ben, par exemple, on voit fleurir des sociétés de crédit. On en voit partout sur Internet aujourd'hui, avec des taux d'usure qui sont assez impressionnants.
Ah oui, d'accord,
Voilà, mais avec
oui,
des
d'accord.
facilités
Oui,
de
bien
prêt
sûr.
qui sont justement des facilités de prêt, d'autant que le taux de rémunération du prêt, enfin le taux d'usure est quand même assez considérable.
Oui,
Donc ça, on en voit.
tout à fait. Et il y a même des pays où il n'y a pas de taux d'usure. Même des pays européens. Hein, l'Italie, par exemple, il n'y a pas de limite dans les taux d'intérêt. Hein. Bon, donc
C'est-à-dire,
effectivement.
voilà la différence. C'est-à-dire qu'il y a endettement lorsqu'il y a impossibilité objective de rembourser un prêt qui vous a été fait.
Oui,
On va dire.
bien sûr. Bon, ceci étant, je pense quand même que une croissance qui depuis 20 ans est faite à coup d'endettement qui ne cesse de grossir, ce n'est pas très sain. Et il ne faut pas s'étonner donc qu'il y ait les trois foyers de crise financière que l'on a
Ouais.
vu tout à l'heure.
Mais sur l'endettement, j'aimerais prendre un exemple. J'avais discuté avec une étudiante française, mais qui avait été en Grande-Bretagne. La différence justement, par exemple, si on prend à la base, on a un système français qui, au niveau éducatif, avec les prêts publics, les bourses, l'accessibilité est quand même beaucoup plus importante par rapport à des hautes études, par rapport à des établissements publics, font que ça prémunit aussi beaucoup de gens d'un endettement précoce. Par exemple, en Grande-Bretagne, quelqu'un qui veut aller dans une école,
À
après,
Oxford, par
voilà,
exemple.
tout de suite, l'endettement intervient.
Oui.
En tant qu'étudiant, vous ferez un métier porteur, donc vous êtes, pour pouvoir avoir un studio, pour pouvoir subvenir à vos besoins, et surtout financer des études qui coûtent très très cher, d'emblée, les banques misent sur vous, et tout de suite, très jeune, on est surendetté.
Oui, tout
Alors,
à
quand
fait.
bien même, on n'est pas encore marié, quand bien même, on n'est pas encore parti de chez ses parents
Et
pour
qu'on n'a
fond.
pas de travail non plus.
Voilà. Donc, il y a aussi le fait qu'effectivement, on a une sorte de prédestination des individus à l'endettement, un endettement qui sera d'autant plus important dans des pays où les prestations sociales, y compris les prestations sociales en termes et en termes d'aide à l'éducation, sont absentes.
Oui, ou en tout cas moindre.
Moindre, oui, mais par exemple, les frais d'inscription pour entrer à l'université en France, c'est pas la même chose que les frais d'inscription pour entrer à l'université en Grande-Bretagne ou aux États-Unis.
Oui, pas encore, un peu moins.
Pas
Pas
encore, oui,
encore.
voilà. On
Pas
voulait y
encore.
aller à une certaine époque,
Oui.
avec la fac Pasqua, avec des
Oui,
établissements comme
oui.
ça.
Ceci étant,
Donc,
quand
mais.
même, le montant et le nombre de bourses ont beaucoup diminué en 20 ans.
C'est vrai, tout à fait.
Donc, bon. Disons que les écarts se resserrent quand même.
Oui.
Alors, donc, après avoir vu les trois foyers possibles de crise financière, maintenant, on va passer aux instruments financiers qui ont créé tous ces problèmes. Hein. Ces instruments financiers, ils sont tout à fait intacts. Hein. Ils ne sont pas du tout remis en cause, ni par le G20, ni par des gouvernements de quelques pays que ce soit. Alors, on va prendre trois exemples. On va prendre les paradis fiscaux, on va prendre les fonds spéculatifs. Et on va prendre des exemples de titrisation. Alors, les paradis fiscaux, Le G20, dans une auto-congratulation générale, a indiqué que les paradis fiscaux allaient disparaître, etc. Mais sur la liste fournie par l'OCDE, hein, les deux principaux paradis fiscaux ne figurent pas. C'est-à-dire la Grande-Bretagne et les États-Unis ne figurent aucunement sur la liste des paradis fiscaux, alors que la Grande-Bretagne, avec ses 9 îles anglo-normandes, ainsi que les îles Caïmans, par exemple, draine, auquel il faut ajouter la City, draine de l'argent blanchi pour des montants très importants. Quant aux États-Unis, de très nombreux États intérieurs américains, comme le Delaware, le Wisconsin, etc., sont des paradis fiscaux. Donc déjà, ne pas faire figurer les deux principaux paradis fiscaux dans cette liste est un signe. Deuxième élément, la liste de l'OCDE ne reprend pas les 75 pays qui sont considérés comme des paradis fiscaux. Alors parfois il s'agit de pays entiers, mais parfois il s'agit de pays dans lesquels il y a, par exemple, une ville qui est paradis fiscal. C'est le cas d'un lieu qui n'est pas très connu comme paradis fiscal, mais qui est un des centres principaux de blanchiment d'argent, c'est-à-dire Tel Aviv. Tel Aviv, c'est la capitale israélienne, mais c'est également à la cinquième ou sixième place un paradis fiscal. Voilà. Hey. Hein. Bon, et puis il y en a d'autres, hein, bien sûr. Hein. Il y a d'autres exemples. Par ailleurs, hein, quand les banques disent qu'elles n'ont aucun lien avec les paradis fiscaux, qu'elles ont tout fait pour se retirer, etc., la Banque des règlements internationaux a publié il y a quelque temps une étude très instructive hein, qui indique bien que la moitié de l'activité internationale bancaire hein, sur la planète se déroule dans les paradis fiscaux. Et toutes les banques ont créé des filiales dans les paradis fiscaux. Donc les paradis fiscaux, hein, il est très peu probable que, qu'ils vont être réellement mis hors d'état de nuire.
En plus, les paradis fiscaux captent le gratin de nos vedettes de la chanson, tel oui, Johnny Hallyday en Suisse.
Charles Aznavour, etc. Oui, oui, tout à fait. Hein. Entre autres.
Les exilés volontaires.
Voilà, le groupe de rock U2, par exemple, qui fait beaucoup d'humanitaire et de caritatif, mais dont tous les profits, suite à leurs concerts, sont dans les paradis fiscaux.
Sacré Irlandais.
Voilà.
Je ne sais pas l'étendre.
Bon, donc, pour les paradis fiscaux, hein, ça semble peu probable. Et on va voir, en abordant maintenant les fonds spéculatifs, que c'est vraiment improbable que les paradis fiscaux soient réellement concernés.
Mais alors, Jean-Luc, donc ça veut dire que même la Suisse est dans le collimateur hein, pour les paradis fiscaux actuellement.
Oui, enfin, bien sûr, ils sont dans le collimateur. Théoriquement. Mais, voilà, mais c'est sur le papier.
Oui.
Là, il n'y a pas d'interdiction d'implanter des filiales en Suisse ou dans n'importe quel autre paradis fiscal. Il n'y a pas d'interruption de relations monétaires, financières. Donc tout cela, c'est quand même largement du blabla.
Bon, ce serait une déclaration d'intention sans suite, hein, à votre sens ou,
Oui, tout à fait.
Parce que tant qu'il n'y a pas de mesure de contrôle dans les établissements bancaires...
Exactement.
Oui, donc exactement. Effet d'annonce. Voilà,
effet d'annonce. Et on va avoir un éclairage avec le deuxième exemple d'instruments financiers intacts, hein, sur lequel je vais être un petit peu plus long que les paradis fiscaux, parce que ça aboutit aux paradis fiscaux. Ce sont les fonds spéculatifs. Alors, les fonds spéculatifs, ce sont des investisseurs hein, qui s'appellent hedge funds, hein, avec lesquels les banques ne se commettent pas directement. C'est-à-dire qu'elles prêtent à des intermédiaires qui s'appellent prime brokers, qui eux-mêmes prêtent à ces fonds spéculatifs. Et ces fonds spéculatifs interviennent sur des opérations, des montages spéculatifs. Ça peut être de la titrisation ou tout à fait autre chose, des prises de participation, etc. La plupart sont immatriculés dans des paradis fiscaux. Notamment les îles Caïmans, hein, sous souveraineté britannique. Et pourtant, l'administration Obama va leur confier le règlement des actifs toxiques, c'est-à-dire Les 400 000 milliards de dollars, devenus 20 000 milliards de dollars pour l'instant, puisqu'il n'y a, y a plus de marché, eh bien l'administration Obama va demander aux fonds spéculatifs de prendre en charge cela. Et l'administration Obama leur accorde des avantages non négligeables, puisque les impôts qu'ils paieront sont très faibles, hein, donc c'est encore les contribuables américains qui paieront la différence. Et cette faiblesse d'impôt va assurer un rendement de 20% à ces fonds spéculatifs, soit des rendements tout à fait comparables à ce qu'il y avait avant la crise. Notamment, l'administration Obama va faire appel à John Paulson, peu connu du grand public. Mais John Paulson, tout au long de l'année 2008, il a volontairement spéculé à la baisse sur les subprimes. Et donc, il fait partie des personnes qui ont créé la crise. Puisque les subprimes ont effectivement fini par lâcher, hein, ce qui a lancé la crise financière déviée sur la crise économique. Mais ce John Paulson, il a empoché hein, plusieurs milliards de dollars au passage, en spéculant à la baisse. Et donc, c'est à ce genre de personnes et d'instruments financiers que l'administration Obama va confier
mais
le règlement.
Mais faut-il être aveugle à ce point ou que se passe-t-il comme il y a convergence d'intérêts pour qu'on y recours
Tout simplement parce que la campagne électorale d'Obama, elle a été financée essentiellement par des banquiers et des financiers. George Soros, qui a fait toute sa fortune, qui est devenu milliardaire dans la spéculation, a largement contribué avec plusieurs milliards de dollars à la campagne d'Obama, qui a coûté plusieurs dizaines de milliards de dollars. Et donc les banques, les financiers, etc., ont beaucoup payé, ce qui fait qu'il est bien obligé de renvoyer l'ascenseur. De même, hein, si tout à l'heure, en début de cette émission, je disais aucun parti politique planétaire n'a voulu n'a insisté pour que ce soit les actionnaires qui prennent en charge, bah, les partis politiques, c'est simple, hein, ils n'ont pas insisté parce que pour leurs campagnes électorales, ils sont bien obligés de faire des emprunts bancaires.
Ah, tout à fait.
Et donc, si jamais ils avaient appuyé cette solution, hein, que les actionnaires de banque prennent en charge les pertes bancaires, eh bien, peut-être qu'ils n'auraient pas eu d'emprunt bancaire par la suite.
Ouais.
Bon, donc pour l'administration Obama, c'est la même chose. D'ailleurs, Obama a choisi, hein, comme ministre des Finances, un ancien de Wall Street, Timothy Geithner. Hein, c'est un ancien. Alors, il a à la fois fait de la spéculation et à la fois été dans les autorités de contrôle, hein, qui ne contrôlent pas grand-chose, en fait, hein, ces dernières années. Quant à son adjoint Larry Summers, c'est pareil. Hein, il a été lui aussi dans les fonds spéculatifs. Bon. Donc, tout cela n'est pas étonnant. En revanche, plus étonnant, c'est que la Commission européenne emboîte le pas à l'administration Obama, puisqu'elle a présenté un projet de directive autorisant les fonds spéculatifs à venir en Europe et à donc chercher de la clientèle et à faire des activités en Europe, ce qui pour l'instant leur est interdit. Donc, on ne peut pas dire, hein, que les instruments financiers qui sont à l'origine de la crise soient particulièrement dans le collimateur. Hein. Par ailleurs, ces fonds spéculatifs étant à peu près tous immatriculés dans les paradis fiscaux, on comprend bien que ce sera un effet d'annonce concernant les paradis fiscaux.
Alors qu'est-ce qu'on pourrait dire pour la dernière petite partie de cette émission pour assainir justement le fonctionnement du système bancaire international ? Bon, vous disiez d'une part, voilà, c'est un choix que moi j'aurais fait, c'est-à-dire à savoir, on est dans un système libéral capitaliste, vous acceptez la faillite des banques, c'est inéductable, les entreprises qui meurent et les banques meurent. Voilà, ça aurait été c'est moins grave que ce qui s'est produit comme compensation par les États, répercussion ensuite sur les particuliers, en particulier les particuliers les plus vulnérables. Sinon, bon, effectivement, aussi la neutralisation et le fait de faire rentrer de rendre infernaux les paradis fiscaux pour les angelots qui qui s'y meuvent, les angelots friqués qui s'y meuvent. Bon, ça, deuxième. Mais qu'est-ce que ça serait pour vous un fonctionnement bancaire sain, assaini, c'est-à-dire qui soit en phase aussi avec l'économie réelle, enfin ce qu'on appelle l'économie réelle.
Oui.
En tout cas, avec la production de valeur ressortie des
activités économiques.
De l'activité économique.
Oui, tout à fait. Alors, pour reprendre l'un de vos propos, pour ma part, j'aurais proposé aux actionnaires bancaires soit effectivement que les banques fassent faillite, auquel cas ils perdaient tout, soit de convertir leurs actions de convertir les actifs, donc qui ne valent plus rien, en actions, auquel cas ils ne perdaient pas tout. Et donc d'éviter le phénomène des cascades que l'on a vu au cours de cette émission. Deuxièmement, pour ce qui est des instruments financiers, les fonds spéculatifs auxquels je viens de faire allusion, là, et les paradis fiscaux, en fait, ont tari les sources très largement de ces deux entités en n'autorisant plus les banques à titriser. Hein, c'est-à-dire que, ce qu'il faut faire, c'est éviter que les banques puissent vendre leurs dettes, hein, puissent vendre la dette de leurs clients, plutôt. Hein, c'est tout simple. Hein. Il y a des opérations bancaires normales, considérées comme normales en tout cas. Hein, des gens empruntent, et puis il y a donc un emprunt qui est remboursé par les personnes aux banques auxquelles ils ont emprunté. Mais depuis une quinzaine d'années, c'est surajouté donc ce phénomène de titrisation, c'est-à-dire que les banques vendent les dettes de leurs clients. Alors ça peut être des emprunts immobiliers, ça peut être des emprunts également des entreprises, voire des emprunts d'État. Hein. Tout cela est titrisé et est vendu à des investisseurs qui, eux, donc, récupèrent les paiements, les remboursements. Ce qui fait que les banques rendent liquides des actifs qui sont normalement illiquides. Et donc, elles peuvent à nouveau, elles encaissent de l'argent en vendant les dettes de leurs clients, ou en vendant les paiements de cartes de crédit, ou encore en vendant des recettes de films futurs, ou en vendant des locations d'avions, etc. Hein. Il y a toutes sortes de titrisations qui existent. Donc elles encaissent de l'argent, et donc du coup elles peuvent à nouveau prêter. Mais ça, c'était la justification il y a une quinzaine d'années quand ça a commencé. Mais en fait, avec cet argent, très rapidement, elles se sont mises justement à spéculer de plus en plus, en titrisant toujours de plus en plus. Et donc en drainant également une partie de toute cette profitabilité vers les paradis fiscaux. Donc en fait, on supprime les titrisations, on supprime pratiquement les problèmes.
Ouais. Ouais. Et qu'est-ce qu'on peut dire justement sur la manière dont vous envisagez l'évolution notamment de la dette en France, par exemple, c'est-à-dire parce qu'on est en plus dans une situation relativement perturbante par rapport à l'appréhension du fameux déficit, puisque ce déficit n'est pas nouveau finalement. Hein, je veux dire,
non, il n'est pas nouveau, mais enfin passé.
Les déficits des États, par exemple de l'État américain, depuis les accords de Bretton Woods, enfin l'abrogation des accords de Bretton Woods, la planche à billets, on sait il n'y a plus l'encaisse or des États, donc on sait que cette question de la dette, de l'endettement des États, même s'il est accru par les faillites bancaires récentes, est un phénomène quand même récurrent quoi dans l'économie moderne.
Plus exactement, il est accru par les non-faillites bancaires, puisque l'État a
oui, parce qu'il y avait eu le Crédit Lyonnais avant, il y a quelques années.
Hein, oui, tout à fait. Pour reprendre l'exemple américain, bien sûr que l'État américain a toujours été plus ou moins en dette. Néanmoins, il a dépassé le record atteint en 1933, où les dettes représentaient 300% du produit intérieur brut. Aujourd'hui, c'est 360%. Donc c'est une dette vraiment très importante, qui est sans précédent. Quant à la France, ça fait une vingtaine d'années qu'elle est en dette, structurellement, comme d'ailleurs des dizaines d'autres États.
Ouais.
Seulement, passer en décembre 2008 de 40 milliards à janvier 2009 avec 100 milliards de dettes, c'est quand même pas pareil.
Ouais, ouais.
Hein, ça fait plus du double en un mois. Donc, et de nombreux États ont connu cela. Donc en fait, ce qui va se passer par rapport au traitement de ces dettes, bah, ça va être des plans de rigueur tout à fait considérables, hein, certainement sans précédent.
Oui, ce qu'on connaît actuellement, notamment dans la suppression de lignes budgétaires, voilà.
Oui, mais certainement beaucoup plus, hein, parce que j'ai cité l'exemple de la Lettonie où même les retraités étaient visés par le FMI. Hein, le FMI a exigé que les retraités participent. Il est très probable, hein, que dans les 150 États qui sont actuellement endettés sur 191. Il y ait beaucoup plus, peut-être pas d'augmentation d'impôts, hein, quoique ça peut être le cas par-ci par-là, mais beaucoup plus de contributions de tout le monde. Mmh. Ah, et donc l'endettement va se régler comme ça, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, par le jeu des taux d'intérêt et des primes de risque que les États doivent payer au marché financier, hein, primes de risque multipliées par 7, hein, en quelques mois. En 2014, les 20 pays les plus riches du monde auront un endettement égal à 100% de leur PIB. Ah, et donc, il n'y aura pas d'autre solution que de reporter sur les gens le paiement de tout ça.
Donc une situation qui est... Comment à long terme on peut vous l'envisager ? C'est-à-dire, il y a certains qui parlent d'une crise financière à répétition qui va justement se produire, se dérouler sur des années et des années et des années.
Oui, ou en tout cas, un marasme financier. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, vu que finalement ce sont les gens qui vont payer les déboires qu'ont provoqué les banques, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui va se passer, c'est que il va y avoir des télescopages, en quelque sorte, hein, entre les endettements des gens et ces nouveaux impôts, ou alors ces nouvelles prestations qu'ils devront assurer eux-mêmes.
Ouais. La Chine a été beaucoup moins touchée. Hein.
Oui, bien sûr. Ouais. La Chine a un excédent, avait un excédent budgétaire considérable. La Chine a d'énormes réserves. Seulement, la Chine a un point faible, ce sont les bons du Trésor américain. Elle a 653 milliards de dollars de bons du Trésor américain. Et si les marchés financiers se défient des États-Unis, ces bons du Trésor ne valent plus rien. Ah, et par ailleurs, elle a 2000 milliards de dollars en réserve.
D'accord.
Ah, et donc là encore, si les marchés financiers se défient des États-Unis, elle n'a plus de réserve non plus. Par ailleurs, la Chine ne représente que 6% du PIB mondial. Ah, contrairement aux apparences, la Chine ne pèse pas beaucoup dans la création de richesses mondiales, parce que la Chine fabrique des produits et des biens à faible valeur ajoutée. Donc là, elle a relancé, mais sa relance, c'est surtout une relance intérieure, hein, qui ne va pas peser beaucoup, puisque représentant que 6% du PIB mondial, il ne va pas y avoir beaucoup d'effets à l'extérieur. Voilà. Mais effectivement, la Chine va certainement rester à l'abri, disons, de ces turbulences. Seulement, comme elle fabrique pour le monde entier, si le monde entier ne lui commande plus grand-chose, ça va être un problème aussi.
Ouais. Donc, ben, on va mettre un terme à cette émission, donc qui était consacrée à la crise financière.
Voilà.
Ben,
merci. Je vous remercie de m'avoir reçu.
Ben, merci à vous, Jean-Luc. À très bientôt.